Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour.
Le 31 décembre 2022, le pape émérite Benoît XVI est décédé. Nous vous avons entendu en début de semaine au micro d'Isabelle Duché, où vous nous avez raconté quelques souvenirs que vous aviez de Benoît XVI. Mais aujourd'hui, on va en parler plus profondément, si vous voulez bien. Vous avez en tête quatre rencontres, entre guillemets, qui vous ont touché, marqué avec Benoît XVI. Est-ce que vous voulez bien nous les raconter ?
Eh bien, écoutez, avec plaisir. La toute première, c'était quand je suis entré au séminaire à Toulouse, c'était en 1985, et le professeur de théologie nous avait demandé, premier cours, de nous équiper d'un livre de théologie signé de Joseph Ratzinger, intitulé « Foi chrétienne, hier et aujourd'hui », nous indiquant que ce livre serait notre manuel, au moins pour un semestre, sinon pour l'année. Et mon premier contact avec Joseph Ratzinger, Benoît XVI, c'est la lecture de cet ouvrage qui m'avait profondément touché, et je crois que je ne suis pas le seul, parce que c'est un livre qui est extrêmement connu et qui a marqué beaucoup de générations de chrétiens et de prêtres. En particulier, pour ma part, j'y retiens la manière dont il formule le fait que la foi n'est pas évidente pour le croyant, de même que la non-foi n'est pas évidente non plus pour l'incroyant. Et comment les deux peuvent entrer en dialogue à partir de ce doute structurel de leur foi ou de leur non-foi, contenu dans la posture même du croyant ou de l'incroyant. Et j'ai trouvé ça extrêmement futé. Déjà, saint Thomas d'Aquin construit toute sa réflexion sur cet a priori que la foi ne s'impose pas et que ces contradicteurs peuvent avoir des pertinences auxquelles il faut savoir apporter des réponses, et que précisément faire de la théologie, c'est être capable de rendre compte de l'espérance qui est en nous à ceux qui nous le demandent. C'est dans le Nouveau Testament, hein, c'est saint Pierre qui écrit ça. Et donc, ben voilà, ça m'avait marqué beaucoup, et ça me marque toujours, presque 40 ans plus tard. Bon, j'y avais trouvé à la fois cet homme théologien, et puis éminemment professeur et pédagogue. Un deuxième souvenir, c'est lorsque j'ai été nommé supérieur du séminaire à Toulouse, c'était en 2007. J'ai pris mes fonctions le 1er août, et moins de mois avant, le pape Benoît XVI avait signé le motu proprio Summorum Pontificum à propos de la forme extraordinaire du rite de la messe, et puis un certain nombre d'autres indications, exprimant son désir dans la signature de ce motu proprio qui a fait couler beaucoup d'encre à ce moment-là, puis depuis, et encore récemment avec sa remise en question par un nouveau motu proprio du pape François. L'indication du pape Benoît XVI à ce moment-là, c'était de servir l'unité et la communion dans l'Église et de favoriser le retour dans la famille, dans la maison de famille, de ceux qui avaient suivi Mgr Lefebvre après le Concile, et d'essayer de poser un jalon important pour résorber ce schisme qui blesse le corps du Christ, quoi, hein, et qui reste pour nous aujourd'hui et tous une souffrance et un scandale quelque part. Hein. Bon. Et donc ça m'avait marqué beaucoup au moment où je prenais mes fonctions de supérieur du séminaire, de servir à ce poste de confiance qui est la fonction de la formation des futurs prêtres, dans cet esprit indiqué par le pape Benoît XVI. Et bon, voilà, un autre élément. Sans concession cependant, devant l'événement à la fois spirituel et puis magistériel que fut le Concile Vatican II. Et ça a été étonnant. Benoît XVI était perçu comme un pape classique, un homme plutôt proche des milieux traditionnels ou traditionalistes. Bon. Et pourtant, il a été sans concession par rapport au fait que toutes les portes s'ouvrent, beaucoup d'obstacles que l'on pensait tout à fait insurmontables peuvent l'être, à condition d'accepter l'enseignement du Concile et ce qu'est un Concile dans la tradition de l'Église catholique.
Et là-dessus, il était sans concession.
Avec une très très grande fermeté et en cela un grand fils de l'Église, quoi, hein, de l'Église catholique, profondément catholique. Bon. Ensuite, l'autre souvenir, c'est l'année suivante, en 2008, lorsqu'il est venu à Lourdes. Et je me souviens avoir été profondément touché, bouleversé par le changement de style par rapport à son prédécesseur, Saint Jean-Paul II. notamment dans la méditation qu'il a proposée devant le Saint-Sacrement exposé sur la prairie en face de la grotte. Et il s'était organisé pour arriver sans déclencher d'applaudissements, dans un très grand silence, dans un très grand effacement de lui-même, et la méditation qu'il a proposée s'adressait directement au Christ. « Seigneur Jésus, tu es là, sous nos yeux, etc. » Et ça m'a, et à la fin du temps d'adoration, on est reparti dans le même climat de silence et de prière. Il n'y avait pas de vedettariat, il n'y avait pas de braquage du projecteur sur sa personne. Alors on a souligné qu'il était timide, ceci, cela, discret, avec une petite voix et tout, mais je crois que c'est une attitude profondément spirituelle et pastorale, très juste dans l'Église catholique. Un peu à la manière de Jean-Baptiste qui s'efface devant le Christ, quoi.
Il a eu pendant ce pèlerinage à Lourdes en 2008, le même silence sur les pas de Bernadette. On se souvient de ce silence quand il est sorti notamment du cachot où de nombreux pèlerins étaient là attendant peut-être une parole, une phrase choc entre guillemets. Et puis non, il était silencieux, il est reparti en silence sur les pas de Bernadette. Ce silence, pour vous, c'est un modèle de méditation ou de prière ?
C'est un modèle de méditation de prière et un modèle de chasteté pastorale. C'est-à-dire, il ne se met pas en interface entre le Christ et les fidèles. Il est au service de cette relation, dans la responsabilité pastorale qui est la sienne, et il l'a assumée jusqu'au bout, mais il ne se met pas en intermédiaire entre les deux. Dans la foi chrétienne, précisément, dans le mystère de l'incarnation, Dieu se fait proche de chacun de nous, et le ministère ordonné est au service de cette relation, mais pas comme un intermédiaire à la manière des grands prêtres, des temples, des anciennes religions, mais vraiment à la manière d'un serviteur qui permet la rencontre, à la manière de Jean-Baptiste. Et le jour où la rencontre se produit, il la sert, il l'accompagne, mais il ne la possède pas, il ne met pas la main dessus.
Alors ça, c'est donc votre troisième rencontre avec Benoît XVI, mais il y a un autre moment qui vous a marqué, touché et même accompagné dans votre vie de prêtre.
Oui, si on peut dire, c'est surtout, enfin le quatrième souvenir, c'est l'annonce de sa renonciation. Et ça a été un événement important, j'étais à Toulouse à ce moment-là, des prêtres bouleversés, peut-être même en colère contre cet acte que Benoît XVI posait, en disant « ça se fait pas, quoi ». Enfin, on ne comprenait pas.
Un sentiment d'abandon ?
Oui, ou de... je ne sais pas. Enfin, en disant ben, « la barque tangue », ceux qui étaient en colère formulaient les choses peut-être un petit peu comme ça. Hein. Et du coup, ben, il nous laisse tanguer, mais lui s'en va, quoi. Voilà.
Mais vous, ce n'est pas comme ça que vous l'avez ressenti ?
Non, alors c'est à la réflexion, hein, parce que sur le moment, je n'avais pas vraiment d'avis très précis sur la question. Mais à la réflexion et puis en voyant comment il s'est comporté après, je suis absolument convaincu qu'il a, et on le dit beaucoup, hein, qu'il a soutenu sans faillir son successeur, le pape François, parce qu'il partageait avec lui le même diagnostic, la même analyse, la même compréhension de l'Église, des défis incroyablement importants devant lesquels l'Église se trouve, se trouvait et se trouve toujours. Et il a fait le constat que lui, compte tenu de son âge sans doute, de sa fatigue déjà là et de sa personnalité, n'aurait pas la force de mener cela, à vue humaine en tout cas. Et il a eu cette immense humilité de se mettre en retrait pour permettre à un autre plus en forme, plus jeune, de faire ce qu'il avait à faire pour le bien de l'Église, tout en le soutenant. Alors, la formule, il l'a soutenu par la prière, mais pas seulement. Je suis absolument convaincu que François allait régulièrement chercher auprès de son prédécesseur le réconfort, le soutien, l'encouragement dont sans doute lui aussi a eu besoin et a besoin.
Merci Monseigneur Mika pour ces quelques mots sur le pape émérite Benoît XVI, donc, qui est décédé le 31 décembre 2022. On va revenir à présent, pour les minutes qui nous restent, sur la trêve de Noël. Alors ce qu'on appelle la trêve de Noël pour de nombreuses personnes, mais qui n'a pas vraiment été une trêve de Noël pour vous, Monseigneur Mika, parce que les derniers jours de 2022 et les premiers jours de 2023, vous avez eu de nombreuses rencontres, de nombreux déplacements dans le diocèse. Alors vous êtes allé à Arreau, à Saint-Lary, vous avez aussi célébré Près Noël en prison. Que retenez-vous de tout cela? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous pouvez en partager avec les auditeurs de Radio Présence?
Mais comme chaque fois que j'ai la chance, la joie de me rendre dans tel ou tel endroit du diocèse, la joie de la rencontre avec les diocésains. Et parmi ces rencontres, je pointe vraiment, de fait, la célébration de Noël le 24 dans l'après-midi à la maison, au centre pénitentiaire de Lannemezan. Ça a été un moment très émouvant, à la fois partagé avec les prisonniers qui étaient là, et puis avec ceux qui ont l'habitude de les visiter, et une association qui était là aussi, et qui est à l'extérieur de la prison, pour accueillir les familles des prisonniers, pour leur offrir un repas, midi, etc. Voilà. Ça a été un temps de rencontre très touchant, très, très émouvant, bon, voilà, très, très humain. Et puis, beaucoup de joie le soir à la cathédrale pour la veillée de la nuit de Noël. C'était magnifique, vraiment, vraiment, vraiment. Le lendemain à la grotte, à Lourdes, puis de nouveau le 31 décembre, une belle célébration de nuit à 23h à la grotte. C'est la première fois pour ma part que j'étais à Lourdes pour ce passage de changement d'année. Et c'était un très 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 beau moment. Ça m'a touché de voir beaucoup de prêtres présents, du diocèse ou d'ailleurs, et beaucoup de fidèles présents, du diocèse et d'ailleurs. Voilà, un beau moment. Puis après, des visites dans les paroisses, vous l'avez mentionné. Une veillée à Arreau, puis la célébration du jour de l'an à la communauté de Saint-Lary, où je n'avais pas encore pu me rendre. Et entre les deux, j'ai eu la joie, la chance de rencontrer mon voisin, évêque du diocèse de Barbastro, à la ville d'Aïnsa, avec l'ensemble des prêtres du secteur d'Aïnsa. Ça a été un bon moment fraternel là aussi. Et voilà, tout cela me remplit de beaucoup de joie.
Voilà, et 2023 a commencé avec à nouveau de nombreuses visites dans les paroisses. Vous serez ce dimanche 8 janvier à Nouillan, au sanctuaire de Nouillan, à Montoussé, près de la Barre de Nest, où vous célébrerez la messe à 10h30. Voilà, un lieu qui dit encore beaucoup la dévotion mariale de la Bigorre.
Le diocèse est extrêmement riche de cette dévotion. Monseigneur Laurence, éminent prédécesseur, a su redonner vitalité à tout cela. Et voilà, je suis heureux de m'inscrire dans son sillage.
Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Marc Mika. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien. Bonne semaine à vous.
Merci et très bonne année encore à tous nos auditeurs.